Eh bien, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce troisième mardi d'éthique publique de l'année 2017-2018. Bonsoir à vous qui êtes présents ce soir au Centre Sèvres. Bonsoir à ceux qui nous écoutent dans un certain nombre de villes par la voix des ondes ou qui nous voient par celle de l'image. Et bonsoir aux auditeurs de Radio Chrétienne Francophone, RCF, qui ont également la possibilité de suivre ce mardi d'éthique publique. Ce mardi d'éthique publique est intitulé à partir d'une déclaration de l'actuel président de la République, M. Emmanuel Macron, le défi immense de la politique de la ville. Je vais me permettre de donner quelques indications sur ce qui nous a poussé à organiser ce débat avant de présenter les deux intervenants. Qu'y a-t-il de commun entre Simone Veil, incarnation de la rigueur en politique, et Bernard Tapie, dont les ennuis judiciaires sont connus ? Entre Najat Vallaud-Belkacem, socialiste peu porté au compromis, et Jean-Louis Borloo, centriste radical, toujours ouvert à la négociation. En dehors du fait que Jean-Louis Borloo a été un temps l'avocat de Bernard Tapie, toutes ces personnalités ont en commun d'avoir été, parmi beaucoup d'autres, ministre de la ville. Une telle diversité montre que tout a été essayé à ce poste. La femme politique préférée des Français, comme l'homme d'affaires pugnace et contesté. Cela prouve aussi que la question a été prise au sérieux par les gouvernements successifs, en dépit de sa pipolisation apparente. Le 14 novembre dernier, à Tourcoing, le président de la République, Emmanuel Macron, a décrété une mobilisation de toute la nation qui seule peut répondre aux défis immenses de la politique de la ville. La veille, il avait parcouru pendant 3 heures un quartier dit sensible de Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, où il avait d'ailleurs été plutôt bien accueilli. L'aspect le plus neuf de son discours de Tourcoing, un peu contradictoire il est vrai avec l'évocation d'un immense défi, tenait sans doute dans son refus de présenter une politique spécifique de la ville pour éviter de stigmatiser quartier ou cité. Les reportages et enquêtes sur ce thème, dont la presse a été friande ces dernières années, n'en font pas moins apparaître un constat accablant. Isolement, voire ghettoïsation de certaines banlieues, et pas seulement en région parisienne, et cela d'abord faute de transports adaptés, habitats mal conçus et délabrés, chômage, trafic en tout genre, source de violence. Dans les propositions d'Emmanuel Macron reviennent avant tout, sous d'autres noms, les questions liées à la sécurité et à l'emploi. La déchirure d'une partie du tissu urbain français est aujourd'hui un des premiers facteurs de désagrégation sociale. François Huvé, rédacteur en chef de la revue Études, partenaire de ces mardis d'éthique publique, et moi-même avons pensé important de procéder à un état de la réflexion sur ces questions alors que sonne le clairon de la mobilisation générale. Cela suppose un peu de distance et de reprise des problèmes au fond, tant en ce qui concerne l'héritage historique qui a construit notre environnement urbain que l'étude de l'action publique menée en ce domaine. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir et de remercier de leur présence Madame Alette Picard, architecte et urbaniste, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Val-de-Seine et professeure à l'École d'ingénieurs en génie urbain. Madame Picard a publié en 2014 dans la revue Études un article dont le titre est en adéquation avec notre rencontre de ce soir, Impasse et enjeux de la ville. Monsieur Jean-Bernard Aubi est professeur des universités à Sciences Po Paris, directeur de la chaire Mutation de l'action publique et du droit public, et il s'est particulièrement intéressé aux politiques publiques de la ville. Il est l'auteur, c'est le dernier ouvrage que je cite, il y en a bien d'autres, de Droit de la ville, du fonctionnement juridique des villes au droit à la ville, aux éditions Bruylant en 2016. Et nous commencerons ce débat en écoutant l'intervention de Madame Picard.
Voilà. Je vais aborder cette question de la politique de la ville sur une analyse sur la transformation spatiale de la ville. Je vais évidemment le lier aux décisions qui ont été prises sur la politique de la ville. Donc, je propose de faire une première partie un peu bilan explicatif sur ce qui a été construit comme quartier qu'on va appeler quartier sensible, quartier difficile, et aujourd'hui on appelle ça quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc c'est ces fameux quartiers qui ont été donc créés grosso modo entre les années 55 et 75, donc juste après la Seconde Guerre, quartiers qui ont été créés en contraste complet par rapport à la ville qu'on connaissait avant. Je dis toujours que ça a été d'une extrême violence, je dirais, pour la population qui était appelée à vivre dans ces quartiers, puisque tout d'un coup, on obligeait les gens à vivre dans un espace totalement inconnu, sans aucune continuité avec la ville autour et avec des espaces qu'on ne pouvait pas reconnaître par rapport à la connaissance et à la pratique qu'on avait de la ville précédemment. Dans une deuxième partie, je vais essayer de reprendre très rapidement les différentes phases de cette politique de la ville. Ça sera repris et analysé de manière beaucoup plus détaillée par Monsieur Hobby. Moi, je vais faire ça rapidement pour voir un peu comment cette politique de la ville sur la forme de la ville a tenté d'essayer de réparer ces quartiers avec beaucoup de difficultés, on verra. Troisième partie, je vais partir d'une évaluation qui a été faite sur la période 2003-2011, à la fois par le CSTB, qui est un centre de recherche technique lié à la construction, des chercheurs de l'université Paris-Est, qui étaient plutôt des sociologues, et puis un certain nombre de personnes de l'État. Et ça a été une évaluation donc qui a été faite justement sur une dizaine de quartiers en France, et de voir comment on a abouti ou pas à des choses intéressantes sur cette réparation de la ville. On verra qu'on va parler d'un élément en particulier. On a d'ailleurs inventé un mot pour expliquer ce processus de transformation des quartiers. On a appelé ça la résidentialisation. On verra, c'est une manière d'essayer de transformer ces quartiers en les redécoupant comme si c'était des petites résidences comme on connaît aujourd'hui, avec un ou deux immeubles, son jardin, son lieu de stationnement, son système d'entrée, pour essayer un peu de casser cette immensité des quartiers où personne s'y reconnaît, où on a beaucoup d'espace que les gens ne peuvent pas s'approprier. Donc voilà. Mais ça, on détaillera plus en avant. Et donc cette évaluation, je vais un peu l'analyser et un peu détailler un certain nombre de points. Et puis je terminerai, je dirais, de manière plus positive, parce qu'on voit quand même que cette analyse, elle peut être beaucoup négative. Je dirais quand même les points positifs qui ont été rendus. La dernière partie, justement, je l'ouvrirai un peu sur l'extrême travail qui attend, je dirais, les gens jeunes qui entrent aujourd'hui dans la vie professionnelle. Bon, moi, je m'intéresse surtout aux urbanistes et architectes et qui vont avoir, justement, dans les années à venir, de tenter de continuer à réparer cette ville du XXe siècle qui a été quand même... On a laissé un héritage aux générations suivantes pas terrible, voilà. Et tout en montrant que, malheureusement, aujourd'hui, dans les réalisations qui se font... encore aujourd'hui, on n'est pas complètement sorti des idées qui ont présidé à la création donc de ces quartiers dans les années 50. Alors, je ne sais pas si je peux... Comment ? Ah oui, oui, je crois qu'il faut que je fasse ainsi. Voilà. Alors, première partie sur cette question un peu de la naissance des grands ensembles et de ce qui a été produit. Donc, comme je vous l'ai dit, on est à peu près, donc on parle de la période des Trente Glorieuses, donc on peut faire commencer ça vers 55, et les derniers grands ensembles, ils vont en effet se terminer vers 85, mais par exemple en 73, Monsieur Guichard, qui était ministre du Logement, va édicter, alors je vais peut-être faire des erreurs de droit, je sais plus, je pense que c'est un décret, l'arrêt de la construction donc de ces fameux quartiers de grand ensemble, en interdisant la construction d'unités de plus de 500 logements. Donc on voit bien qu'à cette période, les années 73, c'est une période où on va prendre conscience des difficultés de ces quartiers. Si on regarde bien l'histoire, On en a pris conscience très tôt, parce qu'il y a il s'appelle Monsieur Parfait, qui est un ingénieur des ponts, qui va travailler pour l'État, un grand commis de l'État, juste après la guerre, et c'est amusant, parce que ça va être celui, au niveau responsabilité, qui va s'occuper justement de cette politique, qui est une politique d'État dans les années 50. Et dès 53, il publie un article où il montre déjà que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des villes modernes, mais lui-même, étant quelqu'un qui était né avant, il reconnaît qu'on est en train de faire des erreurs. Donc il y a une analyse très intéressante qui se fait presque avant qu'on construise ces immeubles. Parce qu'on a déjà émis dans les années 30 les idées de ce que la ville doit devenir pour être une ville un peu correspondant à la modernité. Alors ces nouveaux quartiers ont un peu... alors le premier objectif qu'on retrouve dans ces quartiers, c'est déjà le lieu de leur installation. Donc en général, ces quartiers se veulent être... On parle de ville, d'ailleurs, comme un nouveau centre-ville par rapport au centre ancien. Mais un nouveau centre, qu'elles ne seront jamais, ces quartiers ne seront jamais ça, qui devait être installé loin des centres-villes. Alors, il y a un livre très intéressant dans les années 58 de M. Chevalier qui s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse » où il montre qu'il y a eu une volonté de l'État, quand même, dès cette période, d'éloigner... ces quartiers un peu des centres anciens. On se débarrasse un peu des problèmes et on construit ça à l'extérieur, dans des lieux qui n'étaient jamais faits pour créer des villes. Donc c'est souvent, comme on a dit, dans des champs de betteraves qui étaient souvent un plateau au-dessus de la ville. Et cette question de l'installation de ces quartiers va d'ailleurs poser beaucoup de problèmes d'urbanisme puisqu'ils seront très mal reliés à la ville, puisqu'en général, ils se trouvent au-dessus, et ça crée d'ailleurs déjà des ruptures, et va s'ajouter à ces ruptures tout le système de voies, en général des autoroutes, des rocades, voilà, qui vont passer au fur et à mesure. Alors, ce qui va présider donc à la forme de ces quartiers, c'est donc tout ce mouvement moderne qui naît dans les années 30, et on a par exemple la fameuse charte d'Athènes qui fait suite à ce qu'on appelait un congrès international d'architecture moderne, on appelait ça les SIAM, donc ces différents SIAM qui vont se tenir surtout dans l'entre-deux-guerres, et un des plus connus, c'est celui de 1933, qui va se tenir à Athènes, et on va demander à Le Corbusier de faire la synthèse et le PV de ce qui avait été discuté sur ce congrès, dont le sujet était donc la question du logement et de la ville. Alors, ce livre va devenir très connu, puisque dans ce livre, on va dire à peu près comment la ville devait être, et dans les années 50, où les grands commis de l'État vont travailler sur la création de ces nouveaux quartiers, qui sont d'ailleurs souvent presque imposés aux communes, hein, puisque c'est une politique qui vient de l'État, hein, une politique globale de construction de logements en France au moment du plan Marshall et du développement économique de la France. Et donc tous ces commis, ils travaillent avec la charte d'Athènes sous leur bras, qui devient un peu leur bréviaire de la manière de construire cette ville. Alors on retrouve un certain nombre d'éléments, d'abord des zonages. On met chaque chose à sa place, le logement, le travail, les équipements, et même la circulation fait partie d'une certaine fonction de la ville. On appellera d'ailleurs ça la ville fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout une ville comme la ville traditionnelle où on mélangeait toutes ces fonctions pour faire de la vraie ville, puisque la ville c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de proximité. Donc ça c'est la première question, c'est la question de la fonctionnalité de la ville, et puis après on a une question vraiment formelle de la ville, et on le voit bien, il n'y a pas l'image, ah si elle est là, on le voit bien sur cette image, je ne saurais pas vous dire quel grand ensemble c'est, parce que je l'ai vraiment pris comme un espèce d'archétype de ce qu'est un grand ensemble. Alors elle est intéressante parce qu'on voit déjà que cette forme elle est complètement différente de ce qu'il y a autour, ça se voit presque dans la couleur de la photo et dans l'échelle des choses qui sont autour. Donc on avait plutôt un quartier pavillonnaire. Puis tout d'un coup, on a quelque chose avec ses tours et ses bars et cet espace libre, non construit autour, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une forme qu'on ne connaissait pas du tout avant. On voit très bien la voie qui entoure. Et un des éléments de particularité de ces quartiers, c'est qu'en fait, ils sont entourés d'une voie et que souvent, on n'a pratiquement pas de rue qui les traverse. C'est comme une énorme enclave. Donc, ça va poser un problème dans les villes, parce que jusqu'ici, la ville, on dit d'ailleurs, c'est un mot qu'on emploie, c'est ce qu'on appelle une ville passante, c'est-à-dire c'est une ville avec une trame de rue assez serrée qui permet d'aller d'un endroit à l'autre très facilement. Et tout d'un coup, on va faire des très grands îlots qui formaient eux-mêmes une espèce d'enclave dans la ville. Beaucoup d'espaces non construits. Alors, on disait que ça devait être une ville dans un parc, des tours et des bars dans un jardin. Malheureusement, ces jardins, ils ne seront jamais réalisés. Très vite, ils vont être utilisés pour le stationnement automobile, donc avec beaucoup de bitume. Et puis, de toute façon, pour le logement social, les bailleurs sociaux ou les villes, ça dépendait qui était propriétaire des lieux et gestionnaire, n'auront jamais assez d'argent pour entretenir tous ces espaces qui étaient en même temps des espaces privés. Hein, ce n'était pas des jardins ou des squares appartenant à l'espace public. Voilà, je vous ai dit pratiquement les principaux éléments, mais qui sont importants quand même à connaître pour comprendre un peu les enjeux qui vont se passer aujourd'hui. Alors, moi, je vais parler de la forme de la ville. Évidemment, ça ne, c'est pas la question qui va résoudre tous les problèmes. Ah, il y a des problèmes sociaux, des problèmes de circulation, des problèmes économiques multiples, mais on dit toujours, mais il ne faudrait pas encore en ajouter avec le lieu lui-même, qui est très important pour les gens. Hein. On imagine qu'un enfant qui naît dans ce type d'espace, il a forcément dans la tête quelque chose de particulier. Hein. On le fait quand même vivre dans une forme, je dirais, très différente de la forme de la ville. On n'a plus de rue avec les commerces qui permettent d'avoir des échanges, par exemple. Alors, deuxième partie, je vais dire assez rapidement comment a évolué les différentes interventions qu'on a eues pour essayer de transformer ces quartiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les premières... parce que ça va être très institutionnalisé. Hein. Les premières choses qui sont créées, je dirais, au niveau de l'État, ça commence en 1977. Alors, il faut savoir que certains, ils sont créés dans les années 60, donc pratiquement 17 ans après la construction de ces quartiers, on se pose déjà des questions sur comment vivent ces quartiers. Alors, très souvent, les premières questions qui se posent, ce sont souvent d'abord des questions d'usage et de mode de vie et de problèmes sociaux hein, qui sont dans ces quartiers. Et on se rend vite compte que les problèmes qui peuvent être des problèmes de chômage, d'économie et tout ça, ils se passent aussi dans un espace qui est complètement coupé du reste de la ville. Donc, par exemple, toute la question du fait qu'on met des populations qui sont soit pauvres, soit immigrées dans le même quartier, ça forme une grosse ségrégation, une difficulté plus grande que si on avait réparti ces populations. Et en plus, cette ségrégation, elle est augmentée par l'espace, puisque déjà l'espace est mal relié à la ville existante. Donc, première politique, c'est ce qu'on avait appelé habitat et vie sociale. Cette première intervention sur les quartiers va être une intervention assez douce, dont l'objectif va être dans un premier temps uniquement de, très souvent, on va faire l'isolation des façades, refaire un peu les entrées, mais ça ira jamais très loin. Je lis quelque chose qui m'a assez amusée, c'est-à-dire que en réponse à ces premières interventions, la réponse donc des responsables de l'État est que l'uniformité des grands ensembles est plus apparente que réelle. Donc c'est intéressant de voir, je dirais, quelle pensée on a eue sur ces éléments, parce que l'architecture moderne telle qu'elle s'est faite là, c'était très idéologique, hein, puisqu'on a plein d'autres pays où on a construit quelques grands ensembles après la guerre, je prends l'Angleterre, l'Allemagne et tout ça, mais le gros de la construction qui a été faite pour accueillir toutes ces nouvelles populations, au moment où il y a l'exode rural et le début de l'industrie, on a fait de la maison individuelle, ce qu'on appelle de la maison individuelle urbaine, en bande, voilà, qui permettait une vie différente, puisqu'on avait des rues, des squares, etc. Donc, l'uniformité des grands ensembles est plus apparente que réelle, et l'ennui des femmes, alors parce qu'on verra la sarcellite, est préférable à la révolte des mal logés. Donc, première période, on commence à voir quelques violences, les blousons noirs et tout ça, mais les premières réactions qu'on a sur l'espace sont des interventions assez douces et très souvent mal faites, d'ailleurs. Ensuite, on a la période 82-88, qui est ce qu'on appelle le développement social des quartiers, dont l'objectif était d'améliorer l'aspect de la vie quotidienne, de décloisonner les interventions éducatives, sociales, économiques. Et on va commencer à avoir une vision un peu plus globale de la rénovation de ces quartiers, plus seulement sur les immeubles eux-mêmes. Ensuite, 88-91, on va commencer à avoir une institutionnalisation de cette politique de la ville, avec beaucoup de créations. Et c'est ça qui va faire aussi la particularité, c'est que l'État n'arrête pas de créer des structures, donc le Conseil national des villes, la délégation interministérielle de la ville. C'est la première fois qu'on nomme un ministre de la ville en 90, qui est Monsieur Michel Delebar, qui était maire de Dunkerque et qui va après être sénateur ou député. Voilà. Donc c'est voilà, on crée beaucoup de choses pour ensuite 91-98. On continue toujours et c'est le moment où cette politique de la ville va devenir une grande mission de l'État. On va créer il va y avoir une loi en 91, la loi d'orientation pour la ville. On va commencer à mettre en place les grands projets urbains, des programmes on va commencer un peu plus à faire des choses avec deux parties ou trois parties, avec toujours l'État, les communes. Voilà, on va créer un fonds interministériel de la ville. Donc on voit un début d'institutionnalisation, les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation. On commence les zones franches. Ensuite, 98-2003, c'est ce qu'on va appeler en 2000 la loi SRU, hein, c'est Voynet qui était ministre. On va faire des contrats d'agglomération entre l'État et des établissements publics de coopération intercommunale. Et cette période-là, c'est cette fameuse loi SRU dont l'objectif était d'essayer de commencer à avoir un peu de la mixité dans ces quartiers. Donc, commencer à réfléchir à mettre du logement locatif un peu supérieur, voire du logement privé. À partir de 2003, on va passer de la réhabilitation des immeubles à ce qu'on appelle la rénovation urbaine. Donc cette période du début des années 2000, c'est vraiment la période où on va plus seulement déguiser les immeubles, faire des petites interventions. Là, on va commencer à dire, il faut intervenir lourdement sur ces quartiers, il faut améliorer les espaces publics, donc les espaces extérieurs, il faut faire ce que j'ai appelé, donc on le détaillera, cette fameuse résidentialisation, donc c'est la période où M. Borloo devient ministre de la ville. Il va y avoir un élément important, c'est ce qu'on appelle l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, hein, donc on passe à la rénovation urbaine par rapport à la réhabilitation. La rénovation, c'est que on prend en compte l'ensemble de la ville et on va intervenir par différentes opérations, destruction de certaines parties, reconstruction de logements qui ne seront pas que des logements sociaux. On va essayer de transformer tout l'espace public et l'espace vierge de ces quartiers de manière à mieux les rattacher à la ville autour. Et puis, je passe assez vite, mais sur la réorganisation après 2014, où, alors c'est assez amusant, une nouvelle méthode va être mise en place à ce moment-là pour essayer de définir ces quartiers où on intervient pour plus lourdement. Et là, on met en place une méthode assez étonnante, qui est une méthode très géométrique et mathématique, puisqu'on va définir des carrés de 200 mètres de côté. Dans ces carrés, on va analyser leur venue des personnes à partir des dossiers, enfin des chiffres fiscaux. Et puis, dès qu'on va faire des agglomérats de plusieurs quartiers qui sont juxtaposés, et dès que ces quartiers représentent plus de 1000 habitants, et que la moitié des ménages présentent des revenus au-dessous du seuil des bas revenus, qui est défini, on va dessiner ce qu'on va appeler les quartiers prioritaires, c'est le dernier mot qui est donné, et ça sera sur ces quartiers qu'on interviendra de manière plus importante, et où l'État mettra des sommes d'argent assez importantes pour les rénover. Alors, on voit déjà que cette manière de définir ces quartiers va poser problème, puisqu'on a une espèce de définition strictement financière, économique, et pas du tout une définition géographique. Hein. C'est-à-dire qu'on va peu se poser la question de comment ces quartiers sont posés sur le sol, déjà par leur géographie, est-ce qu'ils sont sur un plateau, sur une vallée, est-ce qu'ils ont une vue intéressante sur le paysage, et puis surtout comment ces quartiers sont mis sur la ville, par rapport aux zones pavillonnaires, aux centres anciens, aux moyens de communication, etc. Donc on voit les contradictions qu'il va y avoir et les difficultés qu'il va y avoir. Je passe maintenant à l'évaluation, j'ai essayé d'aller vite, qui a été faite donc sur ces quartiers, donc au niveau vraiment aménagement. Alors j'ai essayé de mettre plusieurs éléments en compte. La première critique qui a été faite par cette évaluation, c'était que on prenait jamais très bien en compte le contexte particulier de chaque quartier, de manière à mettre en évidence les qualités, les potentialités de ces quartiers, hein, puisque certains peuvent avoir des espaces extérieurs plantés assez intéressants, des positions où on a des vues intéressantes sur le paysage, et souvent on s'aperçoit que il y a peu de diagnostics profondément fait et bien fait pour essayer de prendre en compte la particularité de chaque site. Donc on a un peu des interventions standardisées qu'on applique à chaque quartier, et entre autres on verra cette fameuse résidentialisation va être appliquée de manière un peu systématique, alors qu'il y a des quartiers qui devraient être aménagés autrement par rapport à leur potentiel. Ensuite, des projets qui se limitent trop au seul quartier et qui ne prennent pas suffisamment en compte des visions plus globales de l'espace. Une autre critique qui est faite sur la manière dont, pour faire ces projets, on ne prend pas assez en compte les usages de ces quartiers et les modes de vie, la manière dont les habitants vivent ces quartiers, pour essayer de les transformer. Les espaces publics sont souvent aménagés de manière trop fonctionnelle. Voilà. Ensuite, quatrième partie, c'est une critique qui est faite sur le fait qu'on aménage ces quartiers en ne prenant pas assez compte la question du développement durable. Donc, par exemple, on met très en avant la question de l'automobile, alors que souvent, on a commencé à faire arriver le tramway, le métro et tout ça. Du coup, on se retrouve dans ces quartiers avec des surfaces énormes de stationnement, hein, très minérales. Et on verra que certains aménagements aboutissent plutôt à une diminution des espaces plantés qu'à leur augmentation. Alors, la cinquième partie, je vais insister un peu plus dessus, parce que la critique qui est faite, c'est qu'on a des maîtres d'œuvre, donc les architectes urbanistes qui interviennent sur ces quartiers, qui ne sont pas toujours à la hauteur des défis et des problèmes posés. Ces projets de rénovation nécessitent une vision, je dirais, très complexe. On a l'impression que c'est très simple comme ça, mais en fait, ça demande une vision très complexe, assez modeste en même temps, c'est-à-dire que si vous avez une diva, un architecte très connu qui intervient sur ces quartiers, ce n'est pas forcément une bonne chose, ce n'est pas forcément une commande qui va lui est intéressante, parce qu'il va essayer de faire quelque chose qui se voit beaucoup, qui peut être publié dans une revue pour lui faire un peu de publicité. Alors qu'au contraire, on réclame, ça nécessite plutôt d'avoir des maîtres d'œuvre qui connaissent très bien la ville, qui ont une culture urbaine très importante et qui comprennent bien comment on peut remettre en état tout ce territoire. Et on verra que les principaux problèmes qui vont se poser, et c'est cette fameuse résidentialisation, c'est un, de revenir à un découpage du sol, parce que comme on avait vu, on a surtout des très grands îlots, recréer des voiries, donc redécouper ces grands espaces par des voies. Alors, je ne sais pas, bon, je vais passer un peu les images. Bon, ça, c'est les fameuses destructions hein, qui commencent en, très rapidement. Voilà, ici par exemple, vous avez le quartier de la Duchère à Lyon et on voit très bien les trois années qui se suivent où on voit des destructions de bars et on voit ce travail qui est fait d'essayer de redessiner des voies, de redécouper l'îlot en petites unités donc de résidence, de permettre par le redessin de ces parcelles de, d'imaginer par la suite l'évolution de ce quartier. Qui ne peut pas se faire quand on a un très grand îlot, qui ne peut se faire que quand on a des petites parcelles entourées par des rues et qui va permettre à chaque parcelle de pouvoir, au cours du temps, recevoir d'autres types d'aménagements. La nécessité aussi de faire des rues, c'est de pouvoir faire passer les réseaux en dessous. Ça paraît tout évident, mais il faut savoir que dans ces grands îlots qui construisaient ces grands ensembles, on ne savait même pas où passaient les tuyaux en dessous. Parfois, on avait une chaufferie, et puis tous les tuyaux de la chaufferie, ils passent n'importe comment dans ces, ce terrain, donc on ne peut rien faire nulle part, pareil pour les, l'assainissement, la, les conduites d'eau, etc. Et donc souvent le premier travail pour essayer de les réparer, c'est un travail de géomètre, puis après de notaire, de géomètre ou de spécialiste de ces réseaux, pour essayer de refaire une carte de ces réseaux, parce qu'en fait, on ne sait même pas, et souvent les bailleurs, ils n'ont même plus de plan qui dit comment, où ils passent. Alors bon, je passe maintenant un peu à la manière de... on va peut-être, je crois que j'ai un peu dépassé le temps, donc passer un certain nombre de points positifs. Les points positifs de ces opérations, ça a été d'abord que ça a mis souvent en place une nouvelle quand même gouvernance avec un peu plus de participation des habitants. Ça a amené un développement de quartiers possible ultérieurement. Ça a limité l'enclavement des quartiers. Ça a permis donc de mieux relier donc ces quartiers à la ville. Et puis ça a permis aussi que les gens tentent de s'approprier un peu plus l'espace du fait qu'on redivisait l'espace en résidence. Voilà. Alors, dernière partie sur la question de réparer les grands ensembles. Il faut savoir qu'idéologiquement, parmi les maîtres d'œuvre de cette époque, on a quand même eu deux mouvements importants. Une partie qui défendait plutôt la patrimonialisation donc de ces quartiers, c'est-à-dire de dire c'est le mouvement moderne, c'est des opérations qui ont leur intérêt historique et donc il vaut mieux pas trop y toucher, uniquement améliorer, replanter, rénover les immeubles, mais voilà, en faire un patrimoine. Et puis après, vous avez une autre série de maîtres d'œuvre, et c'est plutôt ceux-là qui vont être écoutés par l'État et qui feront les opérations qui seront financées par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui seront ceux qui disent « cette ville ne fonctionne pas, il faut donc l'améliorer et intervenir dessus de manière beaucoup plus importante. Hein, » Et ce seront donc toutes ces opérations. Et puis, je terminerai un peu là-dessus, c'est que faire aujourd'hui donc de ces quartiers et que faire surtout de la ville dans son ensemble. Je pense que maintenant, il faut arriver à ne plus poser cette question uniquement sur ces quartiers, mais poser la question de la ville dans son ensemble, les quartiers difficiles, tels qu'on les a un peu stigmatisés, étant une partie de cette ville générale. Et là, je dirais que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire des quartiers, malheureusement, qui ne s'éloignent pas beaucoup des quartiers aujourd'hui. Bon, ça, c'est la fameuse barre la plus longue de France, et qui sont les Hauts du Lièvre à Nancy. Un peu la manière dont on a tenté de réhabiliter en cassant un morceau de barre hein, pour essayer de diminuer la longueur. Voilà. Ça, c'est la résidentialisation. Vous voyez, on met des clôtures pour essayer de refaire un peu des entrées d'immeubles différenciées. Ça, c'est la requalification des espaces publics. J'ai essayé de trouver un peu quelques images. Ça, c'est les nouveaux équipements qui sont faits. J'ai pris une image un peu caricaturale parce que très souvent, les équipements qui sont faits, se sont faits par des architectes qui ont besoin que leur équipement se voie. Donc, on a souvent des équipements qui sont à la fois mal mis dans la ville, puisqu'ils ne sont pas au bord des rues, etc. Et puis, ils sont assez mal reconnaissables par les gens qui y vivent. C'est une architecture très moderne et qui ne tente pas du tout d'essayer de penser ce qu'est une école, ce qu'est une piscine, ce qu'est une mairie, etc. Où on peut moderniser, mais il y a quand même derrière l'idée de l'école, de la mairie, etc. Alors, justement, je termine sur ces images. Ici, vous avez une ZAC tout à fait récente, puisqu'elle est encore pratiquement en construction, donc à Clichy-Batignolles, dans le 17e arrondissement, au bord du boulevard extérieur, ce qu'on est en train de requalifier, parce que le tramway passe dessus. Et on s'aperçoit qu'on a certes une architecture qui se déhanche un peu, mais quelque part, voilà. On voit pas forcément toujours les différences. Deuxièmement, vous voyez qu'on retrouve d'ailleurs des types de clôtures tels qu'on fait la résidentialisation. On a très très peu souvent des commerces en rez-de-chaussée. Cette ZAC, elle est autour d'un parc. On n'a pas du tout pensé comment on allait traiter les rez-de-chaussée des immeubles qui donnent le long du parc. Ça se traite pas pareil que les rez-de-chaussée qui sont le long d'une rue. Donc, on a une architecture très peu domestique. Hein, je dis une architecture domestique pour le logement, c'est un endroit où on peut habiter, hein, où on peut avoir des espaces intérieurs ou des fenêtres où on a envie de mettre à sécher son linge. Enfin, je prends des exemples comme ça, où on a envie de se mettre sur son balcon, dire bonjour à son voisin de l'autre côté. Ici, on a quelque chose de très impersonnel. En plus, on a des densités très très fortes. Hein. D'ailleurs, plus que ce qu'on pouvait avoir dans des grands ensembles, puisque parfois, on a moins de 8 mètres entre deux immeubles. Voilà. Donc, c'est se questionner aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ces immeubles, ils sont pratiquement tous construits par les mêmes promoteurs, puisqu'on n'a plus que 10 dizaines de promoteurs qui construisent. Et tous, ils construisent tous les mêmes quartiers aujourd'hui. C'est-à-dire que vous alliez à Lyon, à Nantes, à Montpellier, à Toulouse, on a exactement les mêmes modes de quartier parce que c'est construit par les mêmes promoteurs et les architectes, vous avez aussi une vingtaine d'agences qui interviennent pour ces promoteurs un peu partout en France et qui font la même chose, c'est-à-dire une architecture, une construction très minimum hein, en béton armé, puis on décore en fait le bord. Et donc, je vais terminer là-dessus. Pour, je pense, faire une autre ville, ça demanderait de diversifier, spécialement pour le logement, hein, je parlerai moins des bureaux ou des équipements, parce que le logement, c'est quand même la base de la ville, diversifier un peu les maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on n'est pas que ces grands promoteurs qui, très souvent, d'ailleurs, vendent plus des produits financiers que des logements habités. Et donc, de différencier ces promoteurs et avoir aussi bien de l'autre promotion, c'est-à-dire plusieurs familles qui se mettent ensemble et qui essaient de créer leur immeuble avec un projet de vie à l'intérieur, de vie commune, un gros promoteur, des maisons individuelles, un promoteur social, vous voyez, essayer de différencier ces maîtres d'ouvrage de manière à faire vraiment une ville diversifiée et qui répond, je dirais, aux enjeux aujourd'hui de la façon dont les gens veulent vivre et dont la vie évolue. Par exemple, par le rapport au travail et à la famille. Voilà. Je m'excuse, j'ai dû dépasser un peu.
Merci, merci beaucoup, Alette Picard. Mais vous avez réalisé, le public a réalisé, les auditeurs ont réalisé tout l'enjeu et toute la complexité de ces questions. Donc, on comprend, arriver à faire tenir tout cela en un temps limité, c'est quand même un exploit en quelque sorte. Donc, merci à Alette Picard. Donc, je vous rappelle que vous êtes architecte et urbaniste et enseignante. Merci de cette première partie d'intervention dans le cadre de notre mardi d'éthique publique consacré à la politique de la ville. Je passe maintenant la parole à M. Jean-Bernard Aubi, donc, qui est professeur à Sciences Po et spécialiste des mutations de la politique publique pour la ville. Donc ce sera le versant plutôt politique de la question.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Madame, est-ce que je pourrais vous demander de remettre la première diapo de votre présentation ? Si c'est compliqué, oubliez. Mais...
Où est-ce qu'il faut ? Non, je vais le faire.
Je voudrais vous livrer un voilà.
Oui, mais
je me disais en la regardant, disais plaisamment, de très loin comme ça, en étant un peu myope, on pourrait croire qu'on est devant une photo de la ville de San Gimignano, près de Sienne, que beaucoup d'entre vous probablement connaissent. C'est-à-dire, c'est une ville médiévale, petite ville médiévale, magnifique, qui est hérissée de tours aristocratiques. Bon, ce n'est pas tout à fait de ça qu'il s'agit. Qu'en déduire, peut-être que l'urbanisme, c'est mieux à distance que vu de près, mais ce n'est pas très agréable pour les urbanistes. Sans doute, plutôt que... La ville, c'est par cette idée que je voudrais partir, de cette idée que je voudrais partir pour vous livrer une première chose. La ville, c'est comme la langue d'Ésope, hein, c'est la meilleure, c'est la pire des choses. Ça produit le très bon et ça produit quelquefois le très mauvais. Et l'un des penchants, je devrais commencer un tout petit peu autrement. Pour prendre la mesure du problème des quartiers, qualifions-le comme ça. Il faut tout de même se dire, d'abord, que l'un des aspects malins des villes, c'est qu'elles secrètent naturellement de la ségrégation urbaine. Partons de ça. C'est-à-dire qu'on est en présence, là, de phénomènes qui ne sont pas complètement étrangers à la nature, simplement, ils sont dans une forme exacerbée. La ville, ça produit naturellement de la ségrégation. Tous les spécialistes de la ville le savent, pour des raisons qui sont assez faciles à expliquer d'ailleurs, une espèce de penchant naturel à ceux qui ont de l'argent de se mettre ensemble, parce que c'est là que c'est le plus agréable, parce que c'est là qu'il y a les meilleures écoles, etc. Et inversement, ceux qui sont moins bien lotis vont se trouver de manière cumulative un peu au même endroit. Si les politiques publiques ne s'en mêlent pas, la ville produit naturellement de la ségrégation. Il faut quand même partir de ça. Alors, cela dit, la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, avec nos quartiers en difficulté, c'est quelque chose de particulièrement fort, de particulièrement exacerbé. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation dans laquelle, vous le savez, même si vous ne les fréquentez pas tous les jours, et moi non plus, dans laquelle il y a des zones du territoire qui tranchent par toutes sortes d'aspects déplaisants avec le reste du monde, avec le reste des villes. Parce que le chômage y est beaucoup plus important qu'ailleurs, parce qu'on n'y trouve plus de commerce, parce qu'on n'y trouve plus de médecins, parce que l'insécurité y règne largement, parce que c'est plutôt pas très beau à voir, c'est pas comme le 7e arrondissement, et pour toutes sortes de raisons de ce genre. Et c'est très marqué, c'est très net, et au point de susciter à certains moments des véritables crises, des moments de tension sociale tellement forts qu'on a des périodes, l'avons-nous oublié, des périodes d'émeutes dans les cités, véritablement. Donc il y a quelque chose de très très lourd, même si il ne faut pas ignorer le fait que cela se fonde sur une réalité spontanée des villes, qui est de produire de la différenciation sociale et de la ségrégation. Ça, c'est la première chose que je voulais faire remarquer. La deuxième est celle-ci. La politique de la ville s'appelle politique de la ville, mais au fond, elle ne porte pas bien son nom, parce que c'est relativement peu une politique d'urbanisme, ou ça n'est pas principalement une politique d'urbanisme. Il faut que je m'explique un peu. Dans tous les programmes, y compris celui qui est annoncé, qui l'a été par Emmanuel Macron il y a quelques jours à Tourcoing, il y a des éléments qui relèvent de l'urbanisme, en ce sens que, comme vous l'avez fort bien expliqué, on va rénover les villes, les quartiers, les immeubles, je veux dire. On va faire ces opérations de résidentialisation dont vous avez parlé. On va essayer de faire en sorte que quantité plus grande de logements nouveaux soit construit, donc n'est pas loin de l'urbanisme. Oui, mais la palette des instruments auxquels on fait appel est beaucoup, beaucoup plus large, parce que les mots de ces banlieues en difficulté vont bien au-delà de simplement le fait que les espaces publics ne sont pas ce qu'il faut, les immeubles ne sont pas très beaux, enfin, certaines formes de vie urbaine matérielle n'est pas très, très agréable, mais cela va bien au-delà. Il y a des problèmes d'emploi, donc il faut traiter les problèmes d'emploi. Il y a des problèmes d'insécurité, il faut traiter les problèmes d'insécurité. Il y a des problèmes d'éducation parce que les établissements scolaires dans ces quartiers ont du mal à fonctionner correctement. Et il y a des problèmes sanitaires parce que on a du mal à convaincre des médecins et autres professions sanitaires de s'installer et d'y rester. Et donc, la politique de la ville, dans ses diverses versions, hein, je ne sais pas de raconter l'histoire parce que c'est assez compliqué et en réalité assez fastidieux, on a tous les 4 ou 5 ans un plan nouveau sur la ville, avec à chaque fois une orientation un peu différente, des instruments un peu différents. Mais la palette, quand on la prend au total, depuis le premier linéament de la politique de la ville, c'est-à-dire des années 70-80, ça inclut des éléments donc de rénovation des immeubles, mais aussi des exonérations fiscales pour que les commerçants ne s'en aillent pas trop et qu'au contraire, éventuellement, des entreprises viennent s'installer, des aides à l'installation des médecins, un effort du côté des zones d'éducation prioritaires, vous savez ce que ça représente, donc avec aujourd'hui d'ailleurs une grande concentration dans les banlieues en difficulté de la nouvelle politique qui consiste à diviser les classes des écoles, les effectifs en deux, etc. C'est toute une palette qui est convoquée. Hein. Ce qui me fait dire qu'il ne s'agit pas fondamentalement d'une politique d'urbanisme, une politique urbaine. C'est partiellement ça, mais c'est largement autre chose. En même temps, comme vous l'avez fort bien expliqué, si la situation est ce qu'elle est, c'est largement à cause des politiques d'urbanisme qui ont été conduites. Des politiques d'urbanisme et d'une certaine vision que vous avez rappelée de fonctionnaliste, pour simplifier, de l'urbanisme. La troisième idée que je voudrais vous proposer, c'est celle-ci. C'est que, et j'ai trouvé que c'était assez sensible dans le discours du président de la République à Tourcoing, que j'ai regardé et écouté du début à la fin, dans la perspective notamment de cette rencontre de ce soir. Et la politique de la ville, c'est une politique dont je dirais qu'elle est de discrimination positive, mais qu'elle a parfois un peu du mal à s'assumer comme telle. Comme d'ailleurs toutes les politiques de discrimination positive. Hein, parce que les politiques de discrimination positive ont ceci d'un peu difficile à assumer, qu'elles sont animées de la volonté d'aider certaines personnes qui ont du mal à trouver la place qu'elles devraient pouvoir avoir, mais en même temps, en les discriminant, en les désignant comme des êtres à part, en les désignant comme des catégories à part. Ce qui n'est pas nécessairement très sympathique pour elles, très agréable pour elles, et qui n'est pas nécessairement très agréable pour ceux qui ne sont pas dans la catégorie. Vous voyez ? Nous connaissons ça à Sciences Po avec la politique de discrimination positive que nous avons, qui consiste à aller chercher des lycéens, par exemple dans la Seine-Saint-Denis, et les convaincre qui peuvent accéder à Sciences Po quand ils sont très bons. C'est contesté, c'est critiqué. Eux-mêmes ne sont pas toujours très à l'aise. D'autres disent, mais pourquoi est-ce qu'on les avantage, etc. Bon. c'est toujours un peu difficile. Et la politique de la ville, elle consiste bien à dire, voilà, il y a tel quartier qui s'arrête ici, qui commence là et qui s'arrête ici, et ce quartier, sur lui, nous allons déverser tout un tas de moyens, parce que c'est un quartier à problème, nous l'identifions comme un quartier à problème. Il y en a que, bon, les autres qui sont à côté peuvent dire, mais pourquoi pas moi, ou d'autres quartiers qui ne sont pas tout à fait au seuil, peuvent dire, pourquoi pas moi. Et ceux qui sont dans ces quartiers en difficulté vont dire quelquefois, mais arrêtez de nous désigner du doigt. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait simple. Le résultat est d'ailleurs que les politiques de la ville hésitent toujours, on va voir ce qu'il en est de la nouvelle, elles hésitent toujours entre la dilution et la sélection. C'est-à-dire, entre on sélectionne pour aider vraiment les quartiers qui sont le plus en difficulté, ou bien alors, on ouvre les vannes parce qu'il y en a d'autres qui sont aussi un peu en difficulté, même un petit peu moins, mais aussi en difficulté, il faut les aider aussi cela. Hein. C'est une hésitation constante. Si on regarde bien l'histoire, à mon avis, ça se passe toujours de la manière suivante, plus ou moins. C'est le gouvernement, chaque gouvernement annonce une politique de la ville, nouvelle. À peu près systématiquement, il dit « Oh, mais cette fois-ci, on va resserrer le dispositif pour être efficace. » Bon, donc on commence avec un nombre réduit. Et puis au bout d'un certain temps, d'autres maires sonnent à la porte en disant « Eh bien, et mes quartiers à moi, est-ce que vous ne pourriez pas les aider, etc. » Le total, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce chiffre, mais il y a quand même plus de 1000 quartiers qui rentrent dans la politique de la ville de manière générale, c'est 1300 ou 1400, je crois, même si à l'intérieur, il y a des échelles, c'est-à-dire il y a une concentration de moyens sur quelque chose comme 400 à peu près. Alors vous avez tout de même 1300 ou 1400 qui sont touchés par la politique de la ville. Alors, je ne sais pas, vous pouvez peut-être penser que ça fait un petit peu dilution, un petit peu... on étale un peu les moyens, on serait peut-être mieux concentré, c'est ce que certains vont dire, c'est ce que disait Emmanuel Macron l'autre jour. Et puis d'autres vont dire, mais écoutez, hein, s'il n'y a pas que dans la Seine-Saint-Denis, la région parisienne, qui a des quartiers en difficulté, il y en a aussi ailleurs, il faut aussi les aider. Donc une politique qui est toujours un petit peu comme ça, gênée entre une sorte de souci d'égalité, une sorte la volonté d'être réellement efficace. Un mot de juriste pour dire que, on pourra développer si vous voulez, mais je ne sais pas si l'idée vous intéresse autant que moi, la politique de la ville est une politique peu juridique, peu légale, peu légiférée. C'est des moyens financiers, c'est des arrangements entre institutions, c'est faire marcher ensemble le commissariat, les organes sociaux, etc. Beaucoup plus que de mettre dans la loi quelque chose. D'ailleurs, souvent, on ne saurait pas très bien quoi mettre dans la loi pour traiter ces questions-là. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de législation du tout. Il y en a, par exemple, les législations sur la mixité urbaine qui imposent notamment aux communes, mais il est vrai pas seulement les communes ayant des problèmes de quartier, de prévoir une certaine quantité de logements sociaux, 20%, 25% pour d'autres. Ce qui frappe quiconque, les spécialistes droit de questions juridiques d'urbanisme et d'aménagement, c'est qu'on n'a pas créé des institutions, des mécanismes, des outils spéciaux pour traiter les quartiers en difficulté. Peut-être le faudrait-il, peut-être est-ce qu'on s'en passe très bien, ça je ne sais pas. J'ai encore quelques minutes. 3-4 minutes. Bon, alors, Simplement, je comptais mettre sur le tapis de notre discussion quelques propositions, quelques idées. J'y reviendrai peut-être, si on a le temps, la possibilité tout à l'heure, quelques écueils que la politique de la ville peut rencontrer aujourd'hui, l'état des finances publiques, réforme territoriale, etc. Quelques obstacles qu'elle trouve sur sa route, et très, très clairement. Et puis, la dernière chose que je voulais vous livrer, je le fais en deux mots, c'est je crois qu'on a intérêt à ne pas réagir trop vite sur ces problèmes-là et à se demander quel est le sens profond de cette fameuse politique de la ville. Je veux dire, on répond à quoi quelles sont les motivations profondes que l'on peut avoir pour se lancer là-dessus et le soutenir, parce que ceux qui s'en occupent, ce n'est pas seulement les responsables publics, c'est plein d'associatifs, etc. Pourquoi ? Au fond, oui, des pauvres, il y en a toujours eu, il y en a partout, il n'y en a pas seulement dans les quartiers en difficulté. De la délinquance, il n'y en a pas seulement dans les quartiers en difficulté, il y en a un peu partout. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a là quelque chose de spécifique auquel on devrait s'intéresser tout spécialement? Alors, c'est un débat que l'on peut avoir. Moi, je dirais au moins deux choses auxquelles je suis personnellement sensible, c'est que, d'abord, le côté ghetto, je trouve extraordinairement choquant, parce que les quartiers dont nous parlons sont des lieux d'enfermement, très largement. Ça, c'est quand même, c'est très choquant, n'est-ce pas ? C'est pas, parce que les gens qui y sont, à beaucoup d'égards, ont du mal à en sortir, parce que les moyens de transport ne sont pas adéquats, mais aussi parce que leur situation les y enferme. Il y a là-dedans quelque chose de choquant, et beaucoup d'urbanistes, je relisais des passages de François Hacher qui disait « Le problème clé que nous avons dans vos villes aujourd'hui, c'est le problème de la mobilité. » Et là, dans les quartiers en difficulté, on est en présence de situations qui sont à l'extrême coupées de la mobilité dans nos villes. Et une autre idée que je vous propose de discuter éventuellement est celle-ci. Moi, je crois beaucoup à l'idée de droit à la ville. L'idée qu'il faut reconnaître à tous les citoyens des villes ou tous les gens qui habitent dans les villes un droit à profiter de manière minimale des avantages de la ville, des aménités de la ville. Et très clairement, ces enclaves que sont les quartiers en grande difficulté sont des lieux où le droit à la ville est le plus méconnu. Et peut-être au fond, si nous avons en tête cette idée du droit à la ville, c'est-à-dire un droit, un peu de mobilité, les avantages essentiels de la ville, peut-être nous serons plus efficaces et plus clairvoyants dans la façon de concevoir ces problèmes des quartiers en difficulté.
Merci à Jean-Bernard Aubi pour cette réflexion sur ce qu'est une politique de la ville avec ce qu'il a rend nécessaire et ses limites également, mais aussi d'avoir donné au-delà du droit et des politiques de subventions diverses, d'avoir donné une profondeur humaine au débat qui nous rassemble ce soir, donc dans ce mardi d'éthique publique consacré à la politique de la ville. Merci, un grand merci à nos deux intervenants de nous avoir éclairés en profondeur par rapport à la liste des mesures qui nous est en général donnée par les médias chaque fois qu'une nouvelle initiative est prise en cette matière. Je pense que nous avons là du recul et une matière à réflexion dont nous vous remercions beaucoup.
Voilà, maintenant que nous sommes entre nous. donc, je ne sais pas si Annette Picard souhaite réagir un peu, quelques éléments de réaction par rapport à l'intervention de Jean-Bernard Aubi.
Pour moi, c'est totalement complémentaire. Enfin, il faut complètement savoir articuler à la fois, donc forcément, les différents éléments sur lesquels on peut en effet aborder ces quartiers. On a vu, évidemment, l'espace, c'est qu'une petite partie, hein, mais ça, je l'ai bien dit. Oui, moi, j'ai bien aimé la fin sur le droit à la ville, hein, qui m'a intéressée. Mais ce droit à la ville, c'est aussi, je dirais, une manière d'arrêter de montrer du doigt ces quartiers. Alors, ça a été essayé dans certains quartiers. C'est non seulement permettre aux personnes de ces quartiers de profiter, enfin, profiter au sens noble du terme, mais pouvoir aller dans les autres endroits de la ville, avoir les échanges, pouvoir aller dans les équipements qui sont faits. Mais c'est aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire installer dans ces quartiers les mêmes aménités et permettre aux gens extérieurs de pouvoir aussi venir dans ces quartiers. Je pense par exemple à la rénovation d'un quartier important de Lyon, d'ailleurs où il y avait eu des émeutes, je crois en 2007, qui est la Duchère, un gros quartier de Lyon, et à l'intérieur duquel, par exemple, il y a un lycée international. Et donc des élèves qui n'ont pas forcément à voir avec ce quartier et qui permet de faire venir d'autres personnes sur ce quartier. Donc je pense que pour moi, c'est un élément très important de pouvoir remettre ces quartiers, et ce que je disais, dans l'ensemble de la ville.
Merci. Alors nous allons prendre maintenant des questions dans le public. Donc comme à l'accoutumée, nous prenons deux ou trois questions ensemble. Alors, oui. Ah, pardon, la question de Bordeaux, oui.
Alors, je vais essayer de la résumer. Elle n'est pas très simple à comprendre. Mais voilà, la politique de la ville n'est-elle pas... l'un de ses buts n'est-il pas d'encourager une certaine mixité sociale? Mais est-ce qu'on l'encourage assez? Est-ce que, dans le fond, on ne cherche pas à seulement apporter quelques aides aux quartiers difficiles pour les aider à survivre? Mais voilà, est-ce que, dans le fond, on favorise la cohabitation de populations diverses?
Voilà, donc première question sur la mixité sociale. Bon, nous la gardons en mémoire. Prenons d'autres. Voilà, une main qui se lève au milieu. Une autre plus près, mais ce sera pour vous après.
Et vous entendre, on a l'impression qu'on a une succession quand même d'échecs avec des moyens non négligeables qui ont été mis en place. Moi, ma question porte sur comment est-ce qu'on prend en compte les attentes des populations, ou dit autrement, comment peut-on s'assurer que ce qui est proposé aujourd'hui répond réellement aux priorités des populations?
Voilà, donc voilà, question sur l'attente des populations. Vous avez déjà entamé. Alors, il y a la main qui s'est levée, voilà. Dame devant.
Oui, en vous entendant, je me posais juste la question de quid de la carte scolaire.
Carte scolaire.
La carte scolaire, qui me paraît être un des problèmes fondamentaux.
Voilà, ben nous avons donc trois questions, l'une sur la mixité sociale, l'autre sur les attentes des populations, la troisième sur la carte scolaire. Alors, je vous laisse commencer.
Oui, commencer sur la question de la mixité sociale. Donc, je vais reprendre l'exemple de ce quartier de la Duchère, parce que pour moi, d'abord, je connais bien l'opération, puis je pense actuellement, c'est une des plus intéressantes qui a été faite, je dirais, parmi les quartiers, mais il y en a bien d'autres, hein, Orly, La Courneuve, etc. Alors, dans ce quartier de la Duchère, on a justement tenté d'établir un peu cette mixité sociale, donc évidemment en détruisant un certain nombre de grandes bars, tout en relogeant les personnes, parce qu'il y avait de la vacance de logement, il y avait des systèmes, et de reconstruire au fur et à mesure d'autres logements, avec des logements encore sociaux, des logements qu'on appelle sociaux, mais qui fait plutôt des loyers un peu modérés, moins chers que le marché, et puis des logements faits pour avoir des acheteurs privés du logement libre. Et alors, ce type d'opération, elle a des intérêts et elle peut poser aussi problème. Alors, son intérêt, c'est en effet d'essayer de tenter d'avoir une mixité. Les analyses ont montré d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que certaines populations qui habitaient le quartier et qui en sont sorties parce qu'ils avaient évolué dans leur carrière, obtenu un peu plus de salaire et plus par l'ascension sociale monté un peu, sont revenus acheter des logements. Parce qu'il y avait une certaine attache quand même au quartier, qu'en plus c'est un quartier qui a certaines potentialités, hein, qui a une très belle vue sur le paysage, qui est relié par les transports publics à Lyon, donc qui a un potentiel important de qualité de vie aujourd'hui. Donc c'est un élément que je trouve intéressant. Alors le pendant qui pose problème, c'est qu'évidemment les populations le plus en problème ont tendance à être un peu évincées de ce quartier. Quelquefois, au moment des destructions, ils ont été relogés pas très loin, mais quand même dans des quartiers qui posent encore plus problème. Donc c'est toujours un peu le risque de ce type d'opération de mixité sociale.
Oui, sur cette question de la mixité sociale, alors, d'abord il faut bien se rendre compte qu'elle a deux volets en somme. C'est la mixité sociale à l'intérieur des quartiers en difficulté, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne s'enferment pas dans un type de population. Mais c'est la mixité sociale en dehors, dans le reste de la ville, hein, qu'il faut d'abord et surtout, enfin qu'il faut aussi et fortement rechercher, de manière à éviter justement les phénomènes de ghettoisation. Et donc il y a bien deux volets. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'on entend par mixité sociale exactement ? Alors, on va facilement, et je crois que la législation actuelle va dans ce sens, on va dire il faut qu'il y ait du logement social un peu partout. Ah, pardon, il faut qu'il y ait dans le reste de la ville du logement social en quantité, et puis qu'il y en ait moins dans les quartiers en difficulté, donc qu'il y ait du logement non social. Est-ce que la question du logement résume vraiment le problème, hein? On peut s'interroger. La mixité sociale est probablement une idée un peu plus complexe. J'ajouterai à ceci une question que je vous pose. Qu'est-ce que ça veut dire, la mixité sociale, est-ce que ça veut dire que l'objectif c'est d'avoir un kaléidoscope de gens d'origine différente, quoi. Il faudrait qu'il y ait trois Vietnamiens, deux Ivoiriens, etc. C'est ça que ça veut dire, là. Vous voyez, c'est pas une question facile à manier. Elle l'est d'autant moins. Pardon, je vous livre des idées un petit peu en désordre, pardonnez-moi. Nous avons une difficulté française qui part de très bons sentiments. Nous avons une difficulté, c'est que nous nous interdisons toutes les statistiques à caractère ethnique, racial, d'origine nationale. Ah. Et donc, les gens qui s'intéressent au quartier, à la ville de manière générale, ils fonctionnent un peu à l'aveugle, parce qu'ils ont des données extrêmement grossières, ils ont des données sur la fortune, la taille du logement, bien entendu, sur tout ça, mais pas sur l'appartenance culturelle des gens. Dans d'autres pays, on n'a pas cette pudeur qui chez nous, part d'un réflexe égalitaire, etc. Mais la plupart des experts de ces questions-là disent aujourd'hui qu'on a un vrai problème. Les démographes le disent abondamment. On se prive d'une bonne connaissance de la réalité qui nous rendrait probablement plus efficaces. Hein. La politique de la ville est-elle une succession d'échecs ? C'est vrai qu'on peut avoir un peu cette impression, comme la politique du logement aussi, qui lui est voisine. C'est vrai que ça consomme beaucoup d'argent, et c'est vrai que périodiquement, on lit, la Cour des comptes le dit de temps en temps, que les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs. Ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on se trompe dans la façon de procéder, je ne sais pas, ça peut vouloir dire que le problème est extrêmement difficile à déraciner, qu'il est extrêmement profond. Encore une fois, je disais, c'est pas seulement l'histoire qui crée nos quartiers en difficulté. Il y a quelque chose comme ça dans les villes, hein, de la ségrégation sociale naturelle. Alors, est-ce qu'on se préoccupe suffisamment des attentes des populations, comme la question a été posée? Je ne vivant pas dans un quartier de ce type, je ne peux pas dire. Ce que on sait, ce qu'on lit et ce que montrent les études de toutes sortes, c'est que il y a dans ces quartiers souvent une vie démocratique assez intense, une vie communautaire, une vie collective assez intense, des élus qui sont en général extraordinairement présents, qui l'ont montré au moment des grandes crises, les émeutes, etc. Les élus sont vraiment allés au charbon, et c'est grâce à eux que des dégâts beaucoup plus importants ont été évités. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'on ne se préoccupe pas trop des attentes des populations. La carte scolaire, j'en suis pas un expert, mais enfin, je crois que les rigidités qu'elle crée peuvent contribuer à l'espèce d'enfermement dont je parlais tout à l'heure. Il est vrai qu'on l'a atténuée de X manières, donc maintenant elle n'est plus la carte scolaire rigide qui a existé à un certain moment, mais enfin, je ne suis pas porté à penser que c'est une excellente chose, un excellent moyen de combattre la ségrégation sociale.
Merci. Je ne sais pas si sur les attentes des populations ou l'intégration des populations, vous aviez à la fin de votre intervention suggéré quelque chose autour de ça. Est-ce que vous avez quelques mots de complément?
Je pense que c'est un peu compliqué. On peut avoir quelques exemples qui montrent que c'est une question complexe. Quand on détruit une barre ou une tour, les gens sont excessivement marqués et choqués parce que c'est leur lieu de vie. Donc je dirais que c'est toujours complexe, cette question. Une autre observation qu'on peut faire, c'est beaucoup de jeunes qui habitent ce quartier, ils n'en sortent jamais. Ils vont très peu loin autour. Ils sont complètement enfermés dans ce quartier. Donc, je suis d'accord qu'il y a une vie démocratique importante, des associations, des vies communautaires, mais on peut dire aussi que, même si les gens s'en rendent pas compte, c'est quand même des lieux d'enfermement fort et qui empêchent quelque part, je dirais, l'ascension sociale, qui est déjà pas facilitée par notre système. Et que, certes, je suis d'accord que dans la ville, il y a toujours des quartiers riches, des quartiers pauvres, etc., mais c'était fait de manière beaucoup plus continue. Et les gens se déplaçaient d'un endroit à l'autre et pouvaient rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément de leur milieu. On avait sans doute au niveau même de l'école quelque chose qui était beaucoup moins, qui existait, la séparation, parce qu'il y avait le privé et le public, et les gens avaient toujours des stratégies, mais je pense que là on est arrivé quand même à un paroxysme de la coupure sociale. Donc voilà, enfin, j'ai peut-être répondu à côté, parce que c'est une question difficile, je veux dire, l'attente.
Merci. Pour reprendre une autre salve de questions, alors, on va peut-être commencer sur la droite. Brigitte, alors, je ne sais plus, oui. Levez bien la main, oui, c'est bon. Et puis ensuite, voilà, nous prendrons sur la gauche. Équilibré. Allez-y, oui. Enfin, oui.
Pardonnez-moi, c'est pas tout à fait une question, mais je m'explique, j'ai travaillé très longtemps sur ces politiques, et donc j'ai un point de vue qui n'est pas tout à fait...
Attendez, parlez bien dans le micro.
Pardonnez-moi. Je disais que ce que je vais poser, c'est pas tout à fait une question, c'est un peu une relance auprès des intervenants ou des questions qui ont été posées. J'ai entendu, et je l'ai entendu très souvent, et ça me choque parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai entendu, cette politique est un échec. J'entends ça tout le temps, hein. Je pense effectivement que les médias relayent ce genre de choses et qu'ils préfèrent montrer les échecs que les réussites. Mon expérience sur 20 à 30 ans, hein, de travail dans ces quartiers, c'est que, je vous donne ça vraiment grosso modo, il y a un tiers des quartiers qui se sortent, c'est-à-dire qui progressent. qui sortent de la difficulté globalement. Il y a un deuxième tiers qui reste à peu près stable à leur niveau, puis il y a un troisième tiers qui a tendance à glisser et à continuer à s'enfoncer. Donc c'est pas du tout un échec généralisé. Deuxième élément, il faut comparer les objectifs que l'on se propose dans la politique de la ville avec la force extrême, les forces économiques telles qu'elles se développent aujourd'hui et qui sont des forces qui ont tendance à périphériser, je cherche un terme mais je ne le trouve pas, un nombre important de gens. Les gens sont sortis de l'activité, ils sont sortis de l'école, ils sont sortis de la ville de manière générale. Est-ce qu'une politique de la ville, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas très chère, est de nature à contredire ça? Non, certainement pas. Il faudrait une politique considérable, et à vrai dire, dont on n'a même pas l'idée. Donc là, les objectifs de la politique de la ville sont plus modestes que ça. Hein. Ils visent à essayer de faire en sorte que dans ces quartiers, ça ne se dégrade pas gravement. Et je prétends qu'on y arrive. Voilà. Juste un dernier mot, pardon, je suis beaucoup trop long. Ça a été dit, au fond. Les villes, avant même qu'on crée les grands ensembles, généraient de la ségrégation. Il n'y a pas de ville dans laquelle il n'y a pas de ségrégation. Et elle est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle n'a été au XVIIIe, au XVIe siècle. Je prends juste un exemple, c'est le quartier du Marais. Le quartier du Marais, au XVIIIe, était un quartier aristocratique, et puis il est tombé dans une déliquescence totale. Dans les années 50, c'était une véritable catastrophe. Et puis, aujourd'hui, c'est redevenu un quartier extrêmement prisé, extrêmement valorisé. Donc ce qui s'est passé là ne tenait pas à la forme urbaine, hein, il tenait à d'autres choses.
Merci. Non, le micro de l'autre côté. Nous allons prendre la question donc sur ma gauche. Voilà.
Merci. Est-ce que les autres pays européens font mieux? Et si oui, ça renvoie quand même. Alors on ne va pas dire échec, parce que je vois que c'est un peu divisé dans la salle, mais les résultats faibles de notre politique de la ville ne renvoient pas à certains éléments de notre société. Alors, Madame Alette Picard a évoqué brièvement des choix idéologiques, mais il faudrait qu'elle précise des choix idéologiques de l'urbanisme français, vous l'avez dit, hein. Il faudrait dire lesquels. Et puis, professeur Roby, est-ce qu'il y a nos méthodes de gouvernance, la régulation publique française, est-ce qu'elle n'a pas aussi des faiblesses spécifiques qui expliqueraient qu'on ferait très bien, mais moins bien que les autres? Voilà.
Merci. Il y avait une main qui s'était levée. Alors, tu peux derrière, non? Voilà. Attendez, Brigitte, derrière, qui s'est levée avant. Mais ça sera votre tour après.
Bien. Moi, je pense que nous avons un énorme problème avec nos grands ensembles que nous ne savons pas aborder, absolument pas. La politique de la ville, je pense, à 60-70 ans. Avant, il n'y avait pas de politique de la ville. Et on savait faire des villes, on savait faire des centres-villes. On était capable de mettre des fonctions urbaines pour qu'une ville puisse se développer, progresser et faire vivre tous ses habitants. Aujourd'hui, on ne sait absolument plus le faire. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de problème en France sur la ville, effectivement, Madame Picard parlait de la Duchère. La Duchère, c'est un bon exemple. Nous sommes quelques-uns architectes à étudier les problèmes urbains français et nous voyons deux à trois fois par semaine des grands ensembles. Je vous garantis qu'il y a des problèmes énormes, absolument énormes. Quand on parle de politique d'égalité des territoires, où est l'égalité des territoires en France? Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Madame parlait de la carte scolaire, mais quel enfant dans un centre-ville ira, par exemple, dans une école au Tarteret? Donc déjà, la mixité, elle serait déjà là. C'est-à-dire qu'il faut donner une structure urbaine à nos grands ensembles. Et ce que vous disiez, monsieur, vous ne répondez absolument pas aux questions. Aujourd'hui, on ne fait pas d'urbanisme. Nous ne faisons pas d'urbanisme en France. On fait un urbanisme réglementaire, on fait un urbanisme financier, c'est tout. On fait une division foncière. Et ensuite, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc aujourd'hui, une ville, c'est absolument pas ce dont on a parlé ce soir, malheureusement, parce que j'espérais beaucoup de cette réunion. C'est pas ça la ville, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des moyens de réintégrer ces quartiers, mais il faut que la morphologie urbaine, c'est la première chose à faire. La première chose à faire, la morphologie urbaine. Pour refaire des quartiers, il faut intégrer ces... Madame Picard l'a un peu abordé au début, en disant il faut faire de la voirie, mais il faut faire de la voirie qui provoque des flux, il faut organiser des flux, il faut relier ça au centre-ville. On peut, au Tartaret que nous connaissons bien tous les deux, on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui. Si on ne réorganise pas la morphologie urbaine en recréant des flux avec le centre-ville, on ne fera rien du tout. La Duchère est un endroit un peu particulier parce que la Duchère a un territoire très bien délimité avec une position, effectivement, vous l'avez dit, absolument exemplaire. Ce n'est pas pareil. Tous les grands ensembles ne sont pas identiques. Il ne faut pas oublier qu'en France, il n'y a pas que des grands ensembles quantifiés. Il y a une part très importante d'opérations qui reçoivent en fait des structures de grands ensembles. Nous en avons dans Paris, on le sait bien, nous en avons dans Paris. Que fait-on pour reprendre ces quartiers qui posent tous des problèmes? Quelqu'un parlait de l'urbanisme européen. Effectivement, en Europe, il y a également ce type de problème, mais pas autant qu'en France.
Voilà, vous voyez que c'est un débat. La question de la ville est vraiment un débat. Alors, je passe la parole, quelques éléments de réaction.
Oui, je vais essayer de répondre sur différentes questions. D'abord, on m'a posé la question sur cette question idéologique. Donc, il faut savoir que ça s'est fait au niveau international, cette question de l'urbanisme moderne, qui est née à partir du début du XXe siècle, où on a eu vraiment des préceptes dans les idées, parce que c'était pas du tout appliqué, de la manière dont les gens devaient vivre et de la forme que devaient prendre les villes. Le Corbusier a parlé de la ville ancienne comme une ville du désordre, une ville qui ne fonctionnait pas, cette ville fonctionnaliste, et donc qu'il fallait mettre de l'ordre dans cette ville. Et l'ordre, c'était à la fois... par exemple, le Corbusier le dit très bien, les bâtiments, ils ne doivent plus être le long des rues, parce que commencent à passer les automobiles qui font du bruit, qui polluent, qui sont dangereuses pour les enfants. Donc il faut éloigner les bâtiments des rues. Il faut faire le moins possible de rues. Il faut mettre tous les bâtiments nord-sud-est-ouest pour qu'ils soient bien éclairés. Il faut éloigner les bâtiments les uns des autres pour que l'air puisse circuler et que les bâtiments soient aussi bien aérés. Donc on a eu comme ça plein de préceptes qui n'étaient pas, j'appelle ça idéologique, parce que c'était fondé certes sur des questions un peu fonctionnelles de climat, de lumière et tout ça, mais c'était justement une pensée très sectorisée. On était capable de penser à quelques problèmes, mais on était incapable de penser la ville comme un élément complexe et un élément qui devait répondre au mieux à chacune de ces questions. Par exemple, on ne s'est jamais posé la question dans l'histoire sur cette orientation des bâtiments, parce que la plupart du temps, on faisait par exemple des logements qu'on appelle traversants, et on pouvait avoir une façade nord, une façade sud. Parfois, la façade nord, elle est agréable parce que en face, vous avez un immeuble éclairé, donc qui remet la lumière. C'est pour vous dire que c'était complètement idéologique. Le fait qu'on ferait plus des rues parce que c'est dangereux pour les enfants, aujourd'hui, on commence à savoir dans les centres gérer cette question de la voiture, donner plus de place aux piétons. Donc, voilà. Je voulais juste répondre sur cette première question. Après, qu'est-ce que c'était les autres questions? C'était parce que j'ai un peu oublié.
Il n'y a pas forcément des questions. C'est des prises de position à la fois sur les succès de la politique de la ville.
Si c'est un cas seulement en français. Alors, en effet, la création des grands ensembles, c'est vraiment au niveau de sa quantité. Un cas totalement français. Les Français ont été très forts pour inventer cette architecture industrialisée. On a réutilisé les méthodes techniques qu'on avait utilisées pour construire les premiers aéroports. L'État a obligé à construire ces modèles, puisque vous aviez des subventions pour construire ces types de bâtiments, à condition de construire avec tel type de technique constructive. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ont été créées toutes les grosses entreprises de bâtiments publics et de construction. Bouygues date de cette période, puisque l'État a mis en place un système pour justement permettre à ces grosses entreprises de pouvoir répondre à la commande qui était donnée. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tout le tissu de petites entreprises qui avaient des savoirs sur la façon de mettre les briques, travailler la pierre, enfin un certain nombre d'éléments, tout ça a été petit à petit perdu au profit de grandes entreprises qui ont, grosso modo, coulé du béton. Alors, donc, c'est un cas très français que nous avons, avec gentillesse, exporté en URSS. Et alors, on parle du fameux triangle, parce qu'après, l'URSS a exporté ça en Algérie, qui avait déjà connu ça de la période française, et c'est revenu comme ça, voilà. Dans d'autres pays, on en a fait, mais en nombre beaucoup moins. Alors, est-ce que la France est l'endroit où il y a le plus de problèmes de quartier? Non. Et je pense, par exemple, on connaît tous le cas de l'Angleterre, où alors là, on a vraiment des quartiers très pauvres et des quartiers bon plus riches. Et dans les quartiers pauvres, on n'entre pratiquement plus. La police n'entre plus. Parfois, il n'y a même plus d'électricité, de gaz, d'eau. Donc, on est dans un système, là, je veux dire, extrême. C'est vrai qu'en France, ça n'a pas toujours marché, mais on a limité, au moins pour que ces espaces soient au minimum quand même gérés comme des endroits un peu, voilà, sans satisfaction, parce que c'est pas tout réussi, mais c'est quand même une politique qui a limité, je veux dire, les pires choses et quand même cette question un peu sociale. Alors sinon, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur cette question, d'ailleurs, j'en ai quand même parlé dans mon exposé sur, et je peux continuer par rapport à ce que j'ai dit, sur le fait qu'en effet, ces morceaux de ville ont été excessivement mal conçus. Je l'ai dit pour un certain nombre de raisons qui ne se justifiaient pas, puisqu'on aurait pu, après la guerre, parce qu'on a souvent dit il fallait construire, mais on pouvait construire autrement. La nécessité de construire beaucoup de logements n'avait pas obligation de se traduire dans cette forme. On avait le tissu de construction économique et tout ça pour faire autre chose. Et des pays ont fait autre chose, donc ça montre bien. On se retrouve face à nous avec des travaux gigantesques à faire, quoi.
Mais en même temps, ça me permettra d'assurer la transition vers Jean-Bernard Aubi, qui a été interpellé et qui va répondre. Vous soulignez vous-même que ce soit des structures pavillonnaires ou des structures de grands ensembles, aujourd'hui, la ghettoisation est la même. Elle est même peut-être parfois pire en Grande-Bretagne avec des structures pavillonnaires qu'en France avec des grands ensembles. Donc les choix ne sont pas forcément responsables du résultat final. Jean-Bernard Aubi, vous avez eu beaucoup de questions qui vous ont été posées.
Alors, d'abord, monsieur, je voudrais vous remercier de nous avoir rappelé à l'ordre sur la question de l'échec de la politique de la ville. Je crois vraiment que vous avez raison. Il y a des quartiers dans lesquels la situation s'améliore. Le naufrage n'est pas général. Je crois que c'est vraiment important de le dire. Je voudrais réagir également à ce que vous avez dit, suggéré, du fait que la politique de la ville pourrait entrer en contradiction avec certaines des logiques économiques contemporaines. Je le crois vraiment, je voudrais le préciser de la manière suivante. On sait que les villes aujourd'hui, du point de vue économique, fonctionnent de plus en plus, spécialement les grandes villes, selon un modèle de financiarisation. C'est-à-dire que les villes ne sont plus pilotées ou sont moins pilotés, guidés par les collectivités publiques, par les acteurs publics, que sais-je, et davantage par des puissances privées qui ont les moyens d'acheter massivement, de créer massivement, de construire massivement, et dans des périodes où l'argent public est plus rare, et où donc ces puissances privées exercent un poids sur l'évolution, ont un poids dans l'évolution de la ville qui est très considérable. Et ça, naturellement, ça n'aide pas les politiques de la ville qui ont besoin d'argent de leur côté. Vous avez très bien dit dans quelle mesure le phénomène, notre phénomène des banlieues en difficulté, ou des quartiers en difficulté, est national, partiellement. Bon, je voudrais simplement ajouter à ce qui a été dit deux choses. La première, c'est que pèse tout de même sur notre situation nationale ce que je caractériserais tout bêtement comme notre passé colonial, rapatrié puis immigré de nos anciennes colonies, notamment d'Afrique du Nord. Ça a évidemment très fortement, dans les deux cas, contribué à la création de ces quartiers qui sont aujourd'hui en difficulté, et ça a contribué aux problèmes qu'ils connaissent. Je ne m'étends pas. La question posée évoquait la responsabilité que pourraient avoir nos méthodes de gouvernance, n'est-ce pas ? Je crois qu'il y a tout de même un aspect qui est bien lié à nos habitudes nationales de gouvernance, c'est que une grande partie de ces grands ensembles, de ces quartiers aujourd'hui en difficulté, a été créée à une époque où l'urbanisme était fermement tenu en main par l'État, par volonté étatique. On a une région parisienne, tout le monde connaît cette anecdote du général de Gaulle survolant la région parisienne et disant de l'ouvrier préfet de région à l'époque, disant qu'est-ce que c'est que cette pagaille, mettez-moi de l'ordre dans tout ça. Donc, on a chargé de grands urbanismes, des architectes plus ou moins bien inspirés, de créer des gros îlots d'urbanisation dans lesquels on allait mettre, comme ça, et les rapatriés, et tous les gens qui venaient des campagnes pour travailler à la ville. Mais par décision essentiellement étatique. Alors que dans d'autres pays, l'adaptation à ces changements, l'exode rural, etc., s'est faite davantage sur un mode local, parce que c'est plutôt l'habitude de ces pays-là, Espagne, Italie et quelques autres. L'Italie, en tous les cas. Il y a un côté gouvernance nationale.
Alors, mon voisin m'a fait signe que nous avons déjà dépassé l'horaire et que malheureusement, en dépit du caractère passionnant de ces débats, nous devons y mettre un terme. Merci de votre présence. J'espère n'avoir pas...
Oui, alors, en privé.
Excusez-moi. Hors émission. Deux choses. D'abord, c'est très important de faire référence à l'histoire. Si je prends, puisqu'on a parlé de Le Corbusier, la cité radieuse, elle a été habitée sans doute par des gens qui étaient un peu obligés d'y aller. Elle s'est dégradée énormément, elle a été reconstruite, et maintenant, c'est une cité qui vaut de l'or. Chacun des appartements vaut de l'or. Deuxième chose, je pense que c'est important à l'époque de la charte d'Athènes et de cet amour du purisme, etc., de parler de Fernand Pouillon, qui justement, puisque vous avez parlé de l'Algérie, a construit des choses absolument extraordinaires, qui font référence au village, qui font référence... Il y a une mixité commerciale. Je suis hors émission, c'est pas grave. Hein. Et voilà, c'est extrêmement important de voir les cités qui ont été faites à Alger, qui sont extrêmement dégradées aujourd'hui, mais c'est pas le problème de Pouillon. En tout cas, elles sont d'une qualité extraordinaire. Et allez voir le point du jour. On apprend toujours quelque chose. C'est magnifique.
J'ai une question pour les architectes présents. Moi, j'ai tendance à penser, vous allez me dire si j'ai raison ou tort, que Le Corbusier était un architecte général, génial, un urbaniste peut-être un peu plus discutable. Vous êtes d'accord ?
Bien, merci, monsieur, pour ces évocations.